Charlemagne et sire de Fontenay, star ou psy de Cassiopée. Histoire merveilleuse de l'un des mondes de l'espace, nature singulière, coutumes, voyages, littérature starienne, poèmes et comédies. Traduit du starien, Fantasia, 1854. Introduction. Origine. 1. Va, car déjà de l'Himalaya, les plus hauts sommets sont là devant nous, et l'Inde, la voilà sous nos pieds. Montons par là. Tiens, au ciel, Brahma s'éleva là. 2. Et l'Indien montrait, dans un groupe de cimes, par-dessus tous les monts, le front des blocs sublimes. Devant eux, tout mogol fléchissant le genou, croit adorer les pas du Jupiter hindou. Car les traditions du Tibet et du Sindh enseignent que Brahma, suivant à travers l'Inde, du long Himalaya la rampe de granit, sur ses rochers parfois s'élançait au zénith. 3. Sans différer, nous prenons la route que de la main mon guide indiquait. La course d'un jour devait sans aucun doute nous mener au pied du mont qu'il me marquait comme le but de notre voyage. Nous franchîmes donc, pendant quelques instants, plusieurs ravins d'impérieux passage. Puis, le jour baissant, nous gagnâmes à temps un frais plateau diaprès de verdure où nous devions passer la nuit. Lorsque j'eus pris quelque nourriture, je m'endormis du sommeil qui suit, ordinairement l'extrême lassitude, en dépit du bruit qui parfois m'effraya, car les cris du vent dans cette solitude étaient répétés sur tout l'Himalaya. 4. Quand je me réveillais, le soleil, déjà de sa clarté, illuminait l'Asie au loin. Un jour pur et limpide prolongeait le regard jusqu'à l'horizon agrandi. Car de ce tertre riant au front des cimes adossées, l'Inde se déroulait, et devant mes yeux se retraçait, des sommets du mont géant aux limbes de l'espace, les étages divers des riches climats que je sortais d'explorer. C'était d'abord dans l'infini lointain des forêts d'où jaillissaient des touffes de palmiers. Puis des champs sinueux, où les villages, paraissant groupés, nous semblaient faire à cette heure miroiter les minarets si capricieux des pagodes hindoues. Au contraire, à l'occident, au pied de la montagne, un sol abrupt, ainsi qu'un vaste abîme se creusant, entr'ouvrait l'écrin où brille la perle de l'Asie. Mes yeux découvraient Cachemire au sein de sa vallée. L'effroi vint vraiment m'assaillir quand je mesurais dans ce moment les profondeurs immenses, le grand vide accumulé sous mes pieds dans une marche de 2 mois, qui vit escalader les versants méridionaux du long Himalaya. Puis, un instant, je regardai, enfin, ces plateaux comme un vaste escalier monstre disposé sur ces monts en pyramide sculptée qui faisait surgir au ciel une suite de degrés taillés par Brahma, presque à la mesure de ses pas. 5. Mais bientôt la voix de mon guide, qui murmurait contre l'inaction où j'étais restée, me décide à terminer la longue ascension dont nous avions fixé le terme. Nous nous mettons plein d'ardeur en chemin, gravissons tous deux d'un pas ferme le plan rugueux des pentes du terrain. Un froid vif glaçait l'atmosphère, et cependant un radieux soleil, sur nos fronts perpendiculaires, planait aux cieux dans un azur vermeil. Par des sentiers impraticables, rampant, grimpant, nous parvâmes bientôt devant des glaciers formidables, triple rempart qui défendait l'assaut du mont où Brahma se dérobe aux yeux mortels, de ce mont redouté, le point culminant de ce globe, par un dieu seul jusqu'alors fréquenté. 6. Quand je me vis si haut, perdu dans ce désert, aux célestes confins du monde et du chaos, j'eus voulu reculer. La sainteté sauvage de ces altiers sommets glaçait tout mon courage. Alors notre voyage me semblait un outrage aux puissances du ciel que nous venions tenter si près de leur séjour. Et moi, courbant le front sous tant de majesté, j'allais céder la place quand je vis dans les traits de l'Indien l'audace briller. Son œil embrasse avidement l'espace qui le sépare encore des extrêmes hauteurs de l'univers connu, car jamais montagnard ne s'était vu si proche de la lugubre roche que l'Indostan, au loin, regarde avec effroi. D'un tel succès, son âme, s'applaudissant, s'enflamme, s'exalte d'un désir d'immense vanité. L'orgueil lui persuade de tenter l'escalade des monts dont les hauteurs plongeaient dans l'inconnu. Pauvre idiot qui tremble, reste si bon te semble, dit-il avec dédain. Moi, je vais au plus haut des sommets de la terre pénétrer le mystère dont s'entourent les dieux. S'élever, se grandir, n'est-ce pas ce qu'envie l'homme toute sa vie? Le ciel est là si près. Oui, je veux, pénétrant aux demeures suprêmes, dérober les problèmes enfermés dans leur sein. Qui sait, comme Dieu, là, j'allais tout connaître. Dieu, je serai, peut-être. Quelle tentation, quand le ciel est si près qu'il semble qu'on y touche. Et ces mots de sa bouche à peine étaient sortis qu'il s'élance inspiré. D'une main sacrilège, dans ces rochers de neige, il se fraye un sentier. Je suivis du regard sa sublime démence, et pendant qu'il s'avance, il me semblait d'en bas voir luttant, suspendu au flanc de l'Olympe irrité, quelque titan ou Prométhée. Note. Dieu je serai, peut-être. Les Indiens croient qu'on peut s'élever, par ses travaux ou par la pénitence, jusqu'à être une des puissances du ciel, jusqu'à détrôner un dieu. Fin de la note. 7. Sur le plan presque droit de tout accident lisse, qui découpe le mont, son pas ascendant glisse. Il s'élève, il gravit, et je vis sa main, prête, un moment à saisir le front du divin fête. Avant qu'il fît un pas, au milieu des airs passent les plus sinistres bruits. De rouges éclairs chassent, dans un sillon de flammes, un orbe de feu. Nu. Que le souffle rapide et vengeur d'un dieu rue. Quelle pierre arrachée au dôme éternel, trombe, poussais-tu, ton flanc s'ouvre, un fragment du ciel tombe, rompt le pic de Brahma. Le mont fracassé croule, et l'Indien, horreur, du sommet lancé roule. 8. Le bolide en morceaux saute avec le granit, et les blocs furibonds, bondissant sur ma tête, de leurs pesants débris brisent les hauts glaciers. De vieux nids d'aigles roux roulaient dans les torrents. L'avalanche versait ses rochers, et sa neige renversant tout, frappant pendant qu'elle grondait. Oh, je ne la vis pas passer à mes côtés, car mes yeux se fermaient. Mais je sentis un souffle, un jet d'air convulsif siffler à mes oreilles. Puis le bruit descendant dans les fonds s'éteignit. 9. Le lendemain, en suivant de nouveau, mais tout seul, le chemin qui, des sommets de ces montagnes, devait me ramener dans les chaudes campagnes de l'Inde, qui inondaient un soleil plantureux, je rencontrai sur un tertre pierreux, au milieu d'un amas de neige grise et blanche, poussé jusque-là par l'avalanche, un bloc étrange, terne et d'un sombre métal. Son arête émoussée au contour inégal portait encore sur sa crête sanglante les lambeaux écrasés d'une chair pantelante. Mon cœur navré reconnut tristement, dans cette pierre, un lourd fragment du fulgurant aérolithe qui frappa l'Indien, atteignant la limite qu'un dieu, des champs du ciel le gardien et l'appui, traça d'un trait de foudre entre ce monde et lui. Découverte. 1. Malgré mon froid dégoût pour ce hideux spectacle, la curiosité me poussait cependant à faire l'examen de la masse céleste qui, pendant un instant, avait pesé peut-être dans la main de Brahma, ou qui, du moins au ciel, avait longtemps erré dans les flots supérieurs de la mer des étoiles. 2. Je déblayai la neige dans laquelle gisait cette pierre du ciel, et je pus voir alors la tranche mi-cassée et quelque peu rugueuse de sa cassure ornée des plus vives paillettes. En déblayant toujours, j'aperçus chose étrange. La coupe ainsi brisée de cet aérolithe décrivait l'ouverture d'une excavation creusée en sa substance. Cavité régulière dont la partie absente se retrouvait sans doute dans les fragments perdus ou broyés dans la chute. 3. Le bolide était creux. Quelle était cette roche échappée au volcan d'une sphère inconnue? D'où venait-elle ainsi? Était-ce des montagnes désertes de la Lune, ou, chassée à distance par le scintillement d'une étoile qui roule dans le torrent des mondes, a-t-elle, fatiguée, choisi ce globe étroit pour s'y réfugier? Pourquoi ces flancs creusés, cette excavation dont les parois cubiques brillent d'un éclat sombre? Mon esprit s'abîmait dans ces incertitudes. 4. Je déblayai la neige en cherchant alentour. Je pouvais espérer que les restes épars, les débris du bolide, viendraient enfin m'apprendre à quel fragment de roche ou de construction s'ajustait cette pierre. Or, je ne vis plus trace du bloc tombé des cieux. Ses éclats en roulant s'étaient perdus sans doute au fond des précipices. 5. Seulement, en suivant la pente des rochers, mon pied vint se heurter contre un objet sonore. Un coffret métallique, finement travaillé, reposait dans le sable. Son couvercle incliné, comme un large pupitre, était historié de figures bizarres. 6. Dans les sentiers déserts des monts Himalaya, cet objet transporté recelait un mystère. Je cherchais, par l'étude des signes ciselés sur l'étrange cassette, à fixer l'origine d'un semblable trésor, oubliant le bolide qui montrait ses flancs creux à quelques pas de là. 7. Or, mon incertitude croissant de plus en plus, je saisis mon poignard pour briser les liens qui retenaient soudés les lames du pupitre. Encore un mince effort, et ses lames disjointes allaient se détacher. J'hésitais cependant, car mon cœur avec force battait dans ma poitrine. Que pouvait renfermer cet objet enfoui aux froides régions des grands monts de l'Asie, aux plus hautes limites de la terre habitée? Était-ce les plats d'or des dieux de Bénarès, la mitre d'un grand prêtre du temple de Bouddha, ou bien les diamants du trône des Mogols? Dis, terre de Golconde qui cache dans ton sein des brillants tout de flammes, ai-je trouvé l'écrin où ton Raja Cupide a mis tes escarboucles les plus étincelantes? Et l'esprit enivré du merveilleux délire de ses rêves dorés, oh, j'eus peur un instant d'être aveuglé des feux qu'un rayon de soleil pouvait faire jaillir du foyer de richesse renfermé dans ma main. Toutefois, en cherchant à chasser de mon âme ces splendides chimères, le lieu, l'objet, l'aspect me faisaient pressentir quelques rares trésors. J'ouvris en palpitant. 8. je trouvai plusieurs livres avec un petit nombre de papiers manuscrits. 9. Il me fut impossible de deviner la langue parlée en ces écrits. Je n'y pus reconnaître les signes du langage d'une des nations qui pivotent autour des monts Himalaya. De tant d'événements et d'étranges mystères inquiets, curieux, je résolus dès lors de me charger du coffre. C'était un grand dessein, car ma vie aurait là un immense secret sans doute à pénétrer. 10. Avant de m'éloigner, mon regard se porta une dernière fois sur cette scène abrupte depuis 2 jours, 2 siècles, solitaire témoin de mes longues angoisses. Pyramide brisée, le pic décapité paraissait épancher au versant des montagnes sa neigeuse traînée. Le bolide gisait, sa cavité béante regardant le coffret à mes pieds déposés. 11. En fermant le pupitre que j'allais emporter, à l'un de ses côtés, je crus voir une tache de sang noir desséché, pareille aux teintes sombres que j'avais remarquées sur la pierre céleste. Des lambeaux de sa chair fixés sur le bolide, le sang de l'Indien avait-il pu jaillir jusqu'à cette distance ? Les livres stariens. La déclivité des sentiers était encore obstruée par des monticules de neige ou entrecoupée de petites roches dressées en écueils. Porteur du fardeau dont je m'étais chargé au sommet supérieur de la montagne, je descendis 2 jours encore avant de retrouver la caverne où les guides indiens ont coutume de faire déposer aux voyageurs qui montent la portion des provisions de bouche dont le poids les surchargerait. J'y arrivai mourant de fatigue et de faim, car je ne possédais plus dans ma gibecière que quelques croûtes de pain desséchées que j'étais obligé de faire ramollir dans de l'eau de neige. Je me reposai un demi-jour, et, l'esprit encore tout rempli des scènes qui l'avaient épouvanté naguère, j'ouvris le pupitre dont j'étais devenu le possesseur. Il était d'un bois précieux, recouvert d'une enveloppe de métal ciselé. J'en tirai quelques-uns des livres et des manuscrits qu'il contenait. Ce n'était ni du persan, ni du tibétain, ni de l'hindou, ni même du chinois ou du sanskrit. L'alignement horizontal et la liaison cursive des caractères les rapprochaient plutôt de ceux qu'emploient les nations européennes. Le papier, surtout, était tel que jamais je n'en avais vu d'un tissu aussi serré et aussi compact. Je me crus sur la trace de quelque grand mystère historique ou d'un secret diplomatique important. Mon retour s'effectua au milieu de phases et d'événements divers. Je n'ai rien à en rapporter ici. Revenu à mes études, je me retrouvais toujours en face de cette bibliothèque écrite en une langue inconnue, même aux archéologues et aux linguistes les plus exercés. Je cherchais, car grand était l'attrait qui me poussait à deviner la signification de ces lignes dont mes regards ne pouvaient se détacher. J'eus le courage de recommencer méthodiquement, patiemment, pour cet idiome étrange, les travaux d'un Champollion. Après 6 mois de recherche, j'avais trouvé l'alphabet. Et je pus enfin assembler, articuler les mots. Dès ce moment, je ne me donnai ni cesse ni relâche avant d'être parvenu à déchiffrer le sens de quelques passages des manuscrits, et surtout des livres qui me paraissaient contenir une histoire, une science ignorée. Quand 2 années d'efforts, d'attention et d'études m'eurent initié aux mécanismes de ce langage et ouvert les secrets de la traduction, pendant 2 jours il se passa en mon âme un tumulte de doutes, d'angoisses et d'hésitations infinies. À mesure que je pénétrais le sens de ces ouvrages, un suprême vertige me tenait haletant. jugeait saint. Je cherchais avidement quelques passages de ses livres que je pusse rapporter au courant de mes connaissances, et en expliquant, en traduisant toujours, je ne trouvais rien, ni des hommes, ni des choses de ce monde. Il n'y était question ni de science, ni de mœurs, ni de faits semblables aux sciences, mœurs et faits de cette terre. Mais je débrouillais, en étudiant, une histoire, des sciences, un monde auquel le nôtre paraissait inconnu. Alors je me rappelais les circonstances au milieu desquelles j'avais fait la découverte de ces livres, dans les solitudes de l'Himalaya. Ce pupitre teint du sang de l'Indien écrasé par la chute de l'aérolite. Cette pierre céleste qui, en se brisant, avait laissé paraître une cavité intérieure dont la moitié au moins devait appartenir à un autre quartier de roc perdu dans les neiges de la montagne. Ah, je n'en pouvais douter. Le coffre que j'avais rencontré à quelques pas du bolide était renfermé dans ses flancs. Mon ambitieux délire m'avait fait espérer un trésor dans cette boîte de métal, et elle contenait tout un autre univers. Je voulus vite apprendre à quelque être intelligent avaient appartenu ces livres. Dans le globe de l'espace dont l'aérolite avait été sans doute une parcelle détachée, et surtout à quelle main je devais ces manuscrits, que j'avais reconnu déjà en grande partie être extraits de la correspondance de deux amis, de deux sages. Or, voici ce que m'apprit la lecture attentive de ces papiers. Ce pupitre avait appartenu à un magistrat suprême d'une grande nation de l'un de ces mondes que la voûte étoilée nous montre la nuit, semée dans le grand vide, dans l'immensité des cieux. Loin du tumulte et des passions de ses semblables, il s'était choisi une retraite dans une habitation creusée dans le roc d'une montagne, tourmentée quelquefois par des secousses volcaniques. Là, dans un réduit taillé à même le porphyre, il plaçait habituellement le pupitre dépositaire de ses livres les plus chéris et surtout de ses pensées manuscrites les plus intimes. J'inférais de ces détails et de ces circonstances qu'un cratère avait pu s'ouvrir sur la partie de la montagne où était construite l'habitation du sage et que, dans une effroyable éruption, ces bouches de feu avaient lancé à une distance infinie les dalles qui avaient formé de ce côté la croûte extérieure du volcan. Qui pourrait dire combien de temps ces pierres ballottées entre les mondes sont restées errantes, jusqu'à ce qu'une attraction puissante ou un souffle divin vînt les précipiter, sur une planète obscure comme la nôtre, mais peut-être aussi dans le sein d'un soleil éclatant de lumière. Ce ne fut que lorsque j'eus consulté la partie astronomique et cosmographique de mes documents transstellaires que je crus devoir assigner la place occupée par le monde qu'il m'était donné d'étudier. Au milieu de cet océan de soleils visibles et observables, la disposition et la pluralité des globes lumineux dans un même tourbillon ou système planétaire me fit penser qu'il devait se trouver dans l'étoile désignée dans les catalogues sous le nom de Psi, de la constellation de Cassiopée, ce groupe bizarre d'étoiles, dont les cinq plus grandes marquent les angles d'un zigzag presque régulier. Je laissai à ce monde le nom de star, qui est à peu près l'énoncé du mot terre dans le langage que j'ai sous les yeux. Il m'a fallu rassembler dans ce livre la substance des livres stariens que j'ai traduits. Peut-être trouvera-t-on que je l'ai fait avec moins de méthode que de fantaisie. Fin de l'introduction.